Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues et 172 chez Orange. On est ravis de vous retrouver évidemment pour parler une nouvelle fois de golf et surtout cette semaine de la domination de Nelly Korda et Scotty Scheffler. Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadieu et Arnaud Tillous.
Oui, c'est moi, c'est vrai, bonjour.
J'étais hypnotisé par ton polo, Arnaud. Merci à Callaway Apparel qui nous habille aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il est fort.
Avec ses beaux polos. Ça vous plaît, Benjamin?
Vous êtes comme des coques en pâte.
Ouais, il n'y avait pas la taille de Benjamin, paraît-il qu'il est...
Je fais du small.
Voilà. Ouais, c'est même extra. Et on va continuer évidemment ce débat entre Nelly Korda et Scotty Scheffler qui nous ont... ébloui encore une fois cette semaine. Il domine le golf, hein, c'est le nouveau patron du golf mondial, les deux.
C'est hallucinant ce qu'ils font. On a rarement connu ça dans l'histoire du golf. En tout cas, la même domination chez les hommes et chez les femmes en même temps, je crois qu'il n'y a pas eu, parce que même quand il y a eu Woods...
Søren Stam Woods, c'était pas pile...
En tout cas, je n'ai pas souvenir que les deux aient gagné 5 ou 6 tournois consécutivement au même moment. Donc... ouais, c'est historique et pour l'un et alors, pour l'autre, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça en histoire. Woods, les deux en même temps, il n'y en a pas. Quoi.
Woods avait gagné, alors on sait, Annika Sørensen avait gagné 5 victoires consécutives entre 2004 et 2005. Woods avait 5 victoires de suite, lui, entre 2007 et 2008. 7 ouais. entre 2006
c'est ça, ils ont pas dominé
et
au
2007
même moment.
Et 6 entre 99 et 2000. Voilà.
Donc non, c'est pas arrivé au même moment. Donc C'est une première dans l'histoire du golf mondial, même si, encore une fois, il y a eu des dominations chez les hommes et chez les femmes, mais en même temps chez les deux, enfin, c'est hallucinant.
Ouais, et surtout, Nelly Korda, elle a remporté le Chevron Championship, premier majeur de la saison. On l'a dit, 5e victoire consécutive. Elle rejoint Nancy Lopez, donc il avait fait en 78, et Annika Sørensen. Et surtout, une domination sans faille. On a vu ce tournoi qu'on commentait sur Journal du Golf TV. Elle n'a pas bronché, Nelly Korda. Il n'y a pas eu de faute. Elle a touché un paquet
c'est
de fairway.
Clinique.
C'était clinique, exactement.
C'est clinique. Bah, tu parlais de fairway touché. C'est ce qui m'a, impacté. C'est sur ces deux jours-là, chez Fleur Korda, ça touche les trois quarts des fairways. Voilà, pile poil, 75%. Donc, à partir de là... quand vous touchez les fairways et ensuite 75 voire 80% de green en régulation pour les deux, bah vous évitez les gros problèmes et vous n'avez plus besoin d'enfiler des putts ou de rentrer des chips dans tous les sens, même si ça arrive évidemment
pour l'un comme pour l'autre.
Mais et surtout c'est quand la moindre petite difficulté, hop, Nicolas se ressent, chip putt ou chip dans la boîte, ça a l'air facile.
Bounce back ability qui est au max.
On l'avait pas entendu.
Le moindre petit accro, parce qu'il y a toujours un accro une partie, même chez Woods ou autre, et bah vous avez la réaction sur le trou suivant ou le trou d'après. On l'a vu avec Scheffler à Augusta. Après, c'est son bogey double bogey du 10 et du 11. Bah, il y en a eu un eagle, des birdies dans les trous qui ont suivi. Donc, c'est clinique. C'est peut-être pas ultra sexy, même si on serait complètement incapable de driver comme Scheffler et Korda à 300 yards et à 280 yards, et surtout à toucher 75% de fairway en drivant si loin. Mais voilà, c'est froid, c'est clinique, c'est efficace.
Moyenne de score depuis le début de l'année de Korda, 68,6.
Ouais, et aucun score sous le par pour Scotty Scheffler. Et je crois même qu'il y a encore un truc encore plus dingue.
Aucun score au-dessus du par.
Au-dessus du par. Et il y a un truc dingue au RBC, c'est qu'il enchaînait, je crois, 52 trous.
53 ou 54.
Voilà, 54 trous depuis son double bogey du jeudi, sans faire un score, sans signer un score au-dessus de 4. Sur une carte de score.
Sans mettre un 5 sur la carte.
C'est-à-dire que nous, on jouerait un pitch and putt, on n'arriverait même pas à le faire. Ouais. Que lui, il le fait sur des tournois de majeurs et PGA Tour.
Et pour revenir sur la victoire de Nelly Korda, je vous propose d'écouter la réaction de Céline Boutier qui réagit sur le début de l'année de l'américaine.
Ce que Nelly est en train de faire, c'est juste un truc incroyable. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec elle à Las Vegas il y a 2 semaines. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant, le contrôle de la balle qu'elle a du départ jusqu'au green. Est vraiment impressionnant et du coup c'est vrai que c'est incroyable de pouvoir vraiment faire ce qu'elle fait et du coup on va voir ce que ça va donner pour le reste de la saison, mais c'est vrai que c'est jusqu'à présent une performance très dominante de la part de Nelly et que du coup c'est vrai que ça rend les choses un peu plus compliquées pour nous, mais oui, du coup on n'a pas le choix quoi, et qu'il faut qu'on devienne meilleur et pour arriver à la rattraper. Donc c'est vrai que c'est aussi un bon challenge à avoir.
Voilà, c'est une boutier qui dit évidemment que ça va être dur d'aller la chercher, mais c'est un beau challenge forcément pour toutes ces joueuses qui vont vouloir arrêter la dynamique de Nelly Korda.
En tout cas, aller la chercher pour la place de numéro 1 mondial, c'est, euh, C'est impossible, comme pour Scotty Scheffler, hein, je sais plus, notre ami Nosferatu, je sais plus quel statisticien disait qu'il fallait que McIlroy gagne tous les tournois jusqu'à la fin de l'année, et, enfin tous les tournois du Grand Chelem, et encore, c'était pas sûr qu'il y arrive. Donc aller la chercher pour la place du numéro 1 mondial, ça, c'est impossible. En revanche, c'est sûr que là, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que cette série va se terminer, quand elle va se terminer.
Elle va se terminer. Elle va se terminer, mais quand?
Quand, c'est ça le... Parce que là, pour l'instant, effectivement, on les sent invincibles. Scotty Scheffler, il a gagné 4 tournois de suite, Nicord à 5, mais dans ces 5 tournois, il y a quand même...
Façon consécutive, hein, pas de suite calendaire.
C'est
bon, non, c'est important.
On va faire de la rhétorique, voilà, la sémantique,
ouais,
pardon.
Non, ouais, ça n'a vraiment aucun intérêt comme nuance, pardon.
Qu'est-ce qu'il vient de te mettre?
Non, mais on s'en moque, savoir si elle a joué tous les tournois ou pas.
Évidemment, ça serait encore plus beau de gagner 6 tournois d'affilée de façon calendaire.
Ça ne change rien.
Pour moi, si.
Attention, Dugarry Rotten.
Ça ne change rien. Non, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle a gagné.
Si, parce que la preuve, c'est qu'elle se scratch de ce tournoi à Los Angeles, parce
qu'elle s'est dit épuisée.
Évidemment qu'elle est épuisée. Mais l'important, c'est qu'elle a gagné du match play, donc ça aussi, c'est encore plus fort, quoi, parce que c'est pas que du stroke où là, vous affrontez quelqu'un les yeux dans les yeux, vous avez trois matchs, enfin, il y avait trois matchs à gagner, donc...
De toute façon, Scheffler, il est encore plus fort en match play qu'en stroke, hein. Alors, sauf à la Ryder.
Ouais, mais après, on sait très bien que sur 18 trous, tout peut arriver, et que c'est beaucoup plus facile d'être l'outsider et de gagner en match play, donc non... Chapeau Nelly Korda, c'est impressionnant.
Ouais, ce qui était aussi sympa, c'est de voir sa célébration dans ce fameux Poddy Pond avec Poppy Pond, pardon. Ah. Et avec cette bombe, c'était rafraîchissant de voir ça.
Non, mais faudrait mettre le juré du plongeon, l'inauguration de la piscine de Paris.
Rajouter une note.
Je crois que ça valait la gamelle de l'inauguration de la piscine de Paris là, il y a trois semaines, si vous en souvenez.
Ah, c'était un peu mieux quand même, c'était rafraîchissant cette célébration.
Oui, c'est traditionnel.
C'est bien qu'il l'a. Oui, mais enfin pas avec une bombe forcément. Donc non, c'était chouette.
On parle de la figure hein, dans l'obstacle d'eau du. Peut-être qu'elle aurait dû donner des conseils à Thomas Levet d'ailleurs pour sa célébration.
Ouais, ça aurait pu.
Non, pas là.
Ça aurait pu l'aider.
Messieurs, Scotty Scheffler, Nelly Korda, plus impressionnant selon vous, c'est. On en va en parler tout à l'heure avec Sébastien Audoux, mais qu'est-ce qui vous impressionne le plus? C'est Scheffler ou Korda?
Moi, je viens de dire Korda parce qu'elle a gagné du match play, mais il faut quand même reconnaître que chez les hommes...
Pourquoi parce qu'elle a gagné du match play? Parce que c'est plus dur?
C'est plus dur. Encore une fois, en match play, tout peut arriver, donc c'est quand même plus dur de gagner du match play. Mais la concurrence est quand même plus élevée chez les hommes, même s'il y en a beaucoup qui sont partis sur le livre. On sait très bien que voilà, chez les hommes, tout le monde peut gagner... Tous ceux qui s'engagent dans un tournoi quasiment peuvent le gagner. Donc non, Scheffler, c'est absolument impressionnant. C'est dingue ce qu'il fait. C'est absolument dingue.
Benjamin,
je dirais match nul, c'est leur accélération, cette accélération dans un col de montagne qu'ils ont placé. Parce que si on regarde le classement mondial il y a quelques semaines, il y a quelques mois, hommes et femmes... c'était hyper ouvert, c'était hyper serré. On se demandait si c'est Gauthier, elle est passée numéro 1 mondial, ou Lilia Vu, si
elle... numéro 2.
Ouais, Lilia Vu, si elle revenait de blessure. Ou... C'était hyper serré. Et là, il y a eu une accélération. Et là, on est à se demander c'est dans combien d'années ils vont se faire repasser devant, éventuellement. Quoi. Rendez compte de ce qui s'est passé en l'espace de quelques semaines. Donc, j'irais égalité pour cette accélération en plein col de hors catégorie. Quoi.
Allez, messieurs.
J'aime bien les comparaisons sportives.
Là, j'ai pas parlé de Lance Armstrong parce que je sais que t'aimes pas Lance Armstrong.
Non, comment peut-on aimer Lance Armstrong?
Bon, ça, c'est un autre débat. Nous. On fera un podcast si vous voulez consacrer à Lance Armstrong. On aime ou on aime.
Il préfère Pedro Delgado.
Salut JP, salut à tous, ravi de pouvoir analyser deux des swings les plus performants de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Évidemment, les deux joueurs ont déjà 5 victoires à leur actif. Nelly Korda sur le LPGA, Scotty Scheffler évidemment sur PGA Tour. Et c'était vraiment un exercice intéressant d'essayer de trouver des points similaires entre les deux swings. Ça commence avec une posture différente et il y a quelques points que vous pouvez essayer d'imiter qui sont intéressants. On va commencer par la position au tout début du swing. Vous voyez comme la tête de club au niveau des deux joueurs reste très légèrement à l'extérieur des mains. Ce qui veut dire clairement que les deux joueurs n'ont pas utilisé leurs mains ou leurs doigts au début du mouvement. C'est un mouvement de corps et c'est vraiment quelque chose qu'on peut vous pousser à essayer d'imiter. Ça peut vous donner beaucoup plus de régularité. Donc très peu de mains au démarrage et l'utilisation des épaules et du haut du corps pour mettre le club en route. Ensuite, vous voyez comme les deux joueurs vont rester très 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 grands jusqu'en haut du swing. À la limite, Nelly fait mieux que Scottie Scheffler. Scottie Scheffler, lui, commence déjà à tomber un tout petit peu, à utiliser le sol, et on va en parler juste après. Et c'est quelque chose qui permet de rester à niveau et qui permet, dans le retour, d'utiliser, comme je disais, énormément le sol avec une reprise d'appui très puissante qui permet d'avoir ensuite une extension au niveau du côté gauche, et c'est la dernière similarité entre les deux joueurs. Une extension au niveau du côté gauche qui permet d'utiliser le sol, de mettre beaucoup de force verticale et de créer le plus de vitesse de swing possible. Même si on sait que ce n'est pas les joueurs les plus longs, ils sont en recherche de puissance, comme tout le monde en 2024. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez essayer de faire. Trouver de la vitesse dans le sol, essayer d'être en extension pour ensuite mettre plus de vitesse au niveau de la face de club. Voilà pour les similarités entre les deux joueurs. Il y en a trois, c'est pas beaucoup. Ils font un petit peu chacun à leur sauce. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et je vais vous laisser tranquillement avec la fin des deux swings. Encore une fois, c'est de l'art à ce niveau-là avec la régularité dont ils font preuve. C'est vraiment magnifique à regarder. Et je vous laisse avec ça, JP. Bonne fin de podcast et à très vite.
Allez messieurs, je vous propose de poursuivre le débat avec Sébastien Audou qu'on ne présente plus. Salut Seb.
Salut messieurs.
Comment ça va ?
Bah, très bien.
Alors, je suppose que, évidemment, tu as suivi cette victoire de Nelly Korda et de Scottie Scheffler, qu'on peut finalement comparer à un peu Tiger Woods et Annika Sørenstam à leur époque phare, Sébastien.
Oui, complètement. Hein. C'est vrai que ça rappelle beaucoup cette époque-là, à l'époque où Tiger envoyait des petits textos. À chaque fois, il se chambrait. Hein, qui avançait le plus vite sur la quête des majeurs entre Sørenstam et Tiger Woods. Je ne sais pas si Scheffler et Korda sont aussi proches, mais oui, c'est vrai que c'est assez magique de voir ça, même si la situation du golf professionnel n'aidant pas, on va dire, ça se fait dans un buzz médiatique bien plus faible qu'à l'époque.
Ouais, évidemment, un buzz médiatique bien plus faible, même si la performance est quand même de taille.
Ils se connaissent un petit peu parce qu'ils ont le même équipementier, Korda et Scheffler, ils se retrouvent une ou deux fois par an, notamment pour la Christmas card mythique,
qu'on adore,
où ils posent tous en pyjama. Et on avait vu aussi Scottie Scheffler en point presse après sa victoire dire en substance dire elle est quand même nulle, Korda, elle a fait une 16e place cette saison, en parlant de sa place au tournoi des champions pour lancer l'année. Donc ils aiment bien se taquiner un peu. Alors je ne sais pas à quel point ils sont proches, mais ils se connaissent.
En tout cas, Scottie Scheffler a dit qu'il était très fier de ce qu'avait fait Nelly Korda. C'est déjà quelque chose, non Arnaud, tu fais la moue
Fier, oui, je ne sais pas si
c'est ses mots. Hein.
Son compatriote aussi.
Oui.
Et d'ailleurs, beaucoup de joueurs américains ont souligné cette performance de Nelly Korda.
De toute façon, les joueurs français avaient souligné les performances de Céline Boutier l'année dernière. C'est tous des golfeurs, on sait à quel point c'est dur de bien jouer au golf, on sait à quel point c'est dur de gagner au golf, donc gagner consécutivement au golf, c'est quasiment impossible. Voilà, c'est arrivé quelques fois dans l'histoire, donc forcément tout le monde est ébahi par les performances de Nelly Korda et par celle de Scottie Scheffler.
Ouais Sébastien,
alors, tout le monde est ébahi, mais non, tout le monde est ébahi, mais si je peux rebondir là-dessus, parce que pour le coup j'étais aux États-Unis la semaine dernière. Donc j'étais vraiment au cœur de la machine médiatique et j'ai pu regarder un peu. Et je peux vous dire que ça parlait beaucoup de la draft NFL, beaucoup des playoffs et du play-in NBA. Ça parlait du futur de Caitlin Clark chez les professionnels. Ça parlait très très peu de Nelly Korda et de Scottie Scheffler. Et honnêtement, personnellement, je trouve ça d'une tristesse. Et ça rejoint ce que l'on a vu ces dernières semaines, des chiffres qui, même pour le Masters hein, aux États-Unis, étaient
moins
20% pas très bons.
Les audiences TV. Hein,
et avec une situation du golf mondial dont on voit à quel point elle ne peut plus perdurer longtemps. Et c'est dommage parce que ça tombe à un moment où voilà, on a deux grands champions qui font quand même des choses assez exceptionnelles. Même si je sais que certains trouveront que Scheffler manque ou de panache ou de charisme. Ce que Scheffler fait, c'est vraiment, vraiment exceptionnel.
Ouais, tu le disais, Benjamin, la semaine dernière, c'était impressionnant ce que faisait Scheffler, mais que bah, toi, tu ne te lèverais pas la nuit pour aller voir un joueur comme ça. Quoi.
Non, après, bon, c'est une opinion qui ne regarde que moi, mais je ne pense pas être le seul, surtout qu'il creuse vite, l'écart. Là, le tournoi qui s'est fini le lundi, le RBC, il avait 5 coups d'avance. Est-ce que vous allez vous reconnecter d'une façon ou d'une autre pour voir la fin du tournoi? Parce que vous dites que le gars est tellement solide, et c'est un immense compliment, évidemment, qui va rien lui arriver. Donc, s'il va rien se passer, est-ce qu'on va se connecter? C'est un petit peu ça le problème. Et Sébastien l'a très bien expliqué. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? Il y a le baseball qui reprend, le sport roi avec le football américain. Il y a les sports universitaires qui se terminent. C'est les playoffs de NHL. Donc, plus la grosse discorde.
Les playoffs de NHL. Et bah, ça compte. Il fallait aussi la placer, celle-là.
Et bah, y a... oui,
ça, bien sûr. Non, mais
c'est la NBA, peut-être, non? Plutôt Benjamin.
Oui,
non,
oui, mais il l'a dit. C'est comme Sébastien l'a dit, je ne voulais pas faire de doublon. C'est une des bases du métier de journaliste, ne pas faire de doublon. Donc voilà, ça tombe au plus mauvais moment, cette domination pour eux en termes de résonance médiatique. C'est que le terrain
j'sais
est
pas
déjà
si ça tombe
particulièrement occupé.
Est-ce que Sébastien, on peut parler plutôt aussi de charisme? Parce que finalement, Scottie Scheffler, on parlait tout à l'heure de Tiger Woods. Évidemment, on va comparer les deux par rapport à leur stade de victoire. Mais le charisme de Scottie Scheffler est loin du charisme de Tiger Woods de l'époque. C'est pour ça aussi peut-être qu'aux États-Unis, les gens s'y prêtent moins d'importance.
Alors oui, évidemment, même si je me souviens très bien, et je pense que vous en souviendrez aussi, au sommet de la domination de Tiger, quand à un moment il gagnait tout, notamment en 2000, autant il y a eu un enthousiasme incroyable après la victoire à l'US Open, quand il a refait globalement la même chose à l'Open Championship. Après, il y a eu un peu de fatigue hein, quand même, il gagne tout. Heureusement, il y a eu Valhalla avec des rebondissements incroyables qui a un peu relancé la mécanique médiatique, mais il y avait quand même un peu de Tiger fatigue. Après, je suis pas sûr que si on compare Korda et Sørenstam, Nelly Korda soit beaucoup moins charismatique qu'Annika Sørenstam, par exemple. Donc, je pense que c'est honnêtement assez injuste pour ces deux grands champions qui arrivent effectivement dans une situation un peu compliquée pour le golf professionnel à cause d'éléments qui n'ont rien à voir avec eux. Et qui empêche et c'est encore plus injuste je dirais pour Nelly Korda parce qu'elle arrive dans une phase où le sport féminin est en train d'exploser partout et notamment aux États-Unis. On sort d'une March Madness de basket universitaire où les gens ont été beaucoup plus intéressés par le tournoi féminin que par le tournoi masculin, ce qui est une première historique. Et Nelly Korda devrait se glisser là-dedans et tout le monde devrait se dire « Ah, c'est fabuleux, en fait, le LPGA, c'est ce qu'il faut suivre parce qu'au final, là-bas, il n'y a pas de problème. C'est pas comme avec les hommes où c'est splitté entre le LIV et le PGA. Tout va bien sur le LPGA. » Eh ben non, au final, Nelly Korda, personne n'en parle alors qu'elle fait 5 victoires de suite, dont un majeur, dont une victoire en match-play de manière assez phénoménale. Hein. Moi, j'ai commenté le match-play pour vous. J'étais vraiment époustouflé par la solidité de Nelly Korda qui rappelait effectivement les Lorena Ochoa, les Sørenstam de la grande époque. C'est-à-dire qu'on la sent complètement invincible. Et malgré tout, personne n'en parle, si ce n'est nous en ce moment, et c'est très bien qu'on le fasse. Et ça, je pense quand même que ça en dit long sur, malheureusement, la situation du golf professionnel. Et encore une fois, il va falloir se réveiller et agir très vite.
Ce qui était hallucinant, c'est quand on regardait le majeur, le Chevron, il n'y avait pas grand monde sur le parcours, quoi. À part le dimanche et juste uniquement, évidemment, sur la partie de Nelly Korda, on voyait les images du Chevron.
Sur le livre.
Ben, quasiment.
Un tournoi du livre aux USA avec un peu de monde, mais sans.
Pas trop d'ambiance et pas trop de.
Mais je me demandais.
Buzz.
Ouais, on a parlé de charisme.
Il y avait personne à Vegas. Hein.
Ouais,
mais. Il y avait personne à Vegas.
Hein. On parlait de charisme et donc d'attractivité. Et c'est toujours un peu touchy parce que c'est dur à expliquer, c'est subjectif. Mais en regardant un peu les stats de Scheffler et Korda, on regarde un truc, c'est qu'ils touchent tous les deux 75% de fairway. Vous allez vite comprendre où je veux en venir, c'est que et Arnaud, tu vas peut-être m'appuyer.
Il y a pas de coup exceptionnel.
Non, mais des joueurs des années 80 comme Ballesteros et tout qui rataient des fairways. Woods ratait beaucoup de fairways, en tout cas après sa période Butch Harmon.
Ouais, enfin, je sais pas
il se passait des trucs.
Ouais,
voilà.
Je sais pas si on peut surexpliquer.
Mais d'ailleurs, Arnaud, du coup, il y a même un journaliste qui a posé la question à Scottie Scheffler, qui a dit mais est-ce que vous n'êtes pas lassé de pas rater un coup coup et de jamais
il
être sur
fairway. Il touche 75% de fairway en drivant à 300 yards de moyenne. Nelly Korda, c'est à peu près les mêmes stats ramenées au niveau fairway. 75% de fairway aussi et à peu près au même rang à la driving distance chez les femmes. Donc ça rate.
Et d'ailleurs, chez
les
femmes, c'est ce qu'on reprochait un peu, entre guillemets, aux joueuses sud-coréennes qui rataient jamais un coup et qui étaient tout le temps sur le fairway, sur le green.
Ils ont quand même, j'ai vu passer des tweets, ils ont claironné sur les audiences du Chevron. Ils étaient quand même très contents des audiences du Chevron qui étaient historiques apparemment quand même. Donc moi, il faut quand même pas surinterpréter. Je pense que c'est effectivement Sébastien.
Il y a peut-être moins de spectacles.
Je suis pas sûr qu'il y ait moins de spectacles. Je pense qu'effectivement le golf est dans une mauvaise période à cause de la dissension du livre. Et de toute façon, après, ce qui se passe aussi, c'est qu'effectivement, médiatiquement, le sport, il y en a partout, tout le temps. Donc chaque sport a du mal. De toute façon, tous les sports globalement ont du mal de nos jours. Il y en a que quelques-uns.
Oui, mais là, c'était un tournoi majeur, le Chevron Championship. Il y avait personne sur le parcours.
En tout cas, les audiences à la télé ont été bonnes.
J'insiste sur mon idée. Regardez un peu le chip de Tiger Woods Masters 2005. C'est ça. 2005, le chip au 16 qui rentre pour battre Chris DiMarco, lancer sa remontée. C'est super idiot ce que je vais dire, mais s'il avait mis la balle plein green, ce chip, il l'aurait jamais eu à le tenter.
Oui, mais sur un par 5, il rentre aussi des chips.
Il en rentre aussi, mais...
Tu parles de Tiger... Ben, tu parles de Tiger 2005, mais Tiger 2000, à l'US Open, il rate pas un coup. Au British, il prend pas un bunker à St Andrews. Enfin, je veux dire, c'est... On peut pas dire que ce soit... hyper excitant quand Tiger gagne l'US Open.
Tiger, il est au-delà du sport, Seb. Il est au-delà du sport, il est au-delà du golf. Il a un aura qui dépasse.
C'était historique.
Parce que finalement, on a l'impression
l'ampleur de la victoire.
Malheureusement pour ces champions, on se lasse vite d'un champion.
Ça devient normal.
Quand
Schumacher gagnait tout en Formule 1,
c'était
pareil.
Oui, mais la F1, ils sont beaucoup moins. Mais en golf, on sait que c'est très dur de gagner. Non, justement, plus un golfeur gagne, je trouve, plus ça devient intéressant. On a envie de voir quand est-ce que ça va s'arrêter.
C'est ce que tu disais, Arnaud. Tu détestes Tiger Woods qui gagnait tout à une époque.
Oui, mais c'était quand même une autre époque. À cette époque-là, il y avait plein de gens qui. Il y avait plein de suspense. Et lui, il le tuait en gagnant avec 15 coups d'avance. Et
là, Scheffler, c'est pareil. Nelly Korda, c'était pareil.
On n'en est pas là. Nelly Korda, elle a un putt pour gagner au 18. On n'en est pas là quand même. Non, on a envie de les voir pour l'instant.
Vous avez vu les cotes de bookmaker avec Scheffler et Korda. Elles sont en dessous de 5 contre 1. Ce qui, pour le golf, est incroyable. Incroyable. Ouais.
Non, mais ça va être pour le coup, je trouve que ça rend quand même hyper intéressant. Moi, je suis quand même assez excité des prochains majeurs, aussi bien femmes que chez les hommes, parce que maintenant, c'est ça qu'on attend d'eux. C'est non seulement qu'ils continuent à gagner, mais que Scheffler enquille les victoires, quand bien même ce sont des signatures éventes, c'est une chose. Ce qu'on a envie de voir maintenant de la part de Scheffler, c'est qu'il passe en mode Kopka et qu'il se mette à enchaîner les grands chelems. Je pense que si, imaginez qu'il gagne le PGA, on arrivera à l'US Open et je pense que l'enthousiasme autour de Scheffler sera remonté d'un cran.
Côté à 50 contre 1, le grand chelem de Scottie Scheffler.
Ah, j'ai vu 40, moi.
Ça a déjà baissé.
Non, j'ai vu un 40.
Ce qui est hallucinant, 40, d'ailleurs.
C'est hallucinant. Il disait que Sam Burns, qui gagne un grand chelem, la cote était plus élevée que le grand chelem que le grand thème de Scheffler. Donc ça veut. Et Sam Burns, qui est quand même un des 10 meilleurs joueurs du monde.
Mettre néon sur Sam Burns.
Une victoire en grand chelem que sur Scottie.
C'est là, j'aime beaucoup les bookmakers, hein, mais je pense que des fois ils perdent un peu la raison. D'ailleurs, je voyais pas mal de journalistes aux États-Unis qui disaient oui, carrément, je vois pas ce qui pourrait empêcher Scheffler de gagner un grand chelem. Bah, si c'est jamais arrivé dans l'histoire, si ce n'est le Tiger Slam sur deux années calendaires de Tiger, c'est qu'il y a quand même une raison. Spieth avait tout pour lui en 2015, hein, il n'est pas si loin que ça, il est en course au PGA, il perd en playoff l'Open Championship, il y a un moment en golf, ça finit toujours par se dérailler.
Il rate le playoff d'un coup.
Je me permets.
Il rate le playoff
d'un coup.
Oui, il rate le playoff d'un coup, oui, tout à fait.
Ça fait du bien de temps en temps de corriger Sébastien Rodou. Je l'ai fait.
faut quand même pas oublier que Scheffler, il a quand même un petit problème, c'est
sa femme,
le putting, et qu'on n'est pas à l'abri que, il va être papa, on va voir si ça va modifier la donne pour lui, mais il y a quand même ce putting et ses problèmes au putting. Aux États-Unis, on dit que quand il pote pas très bien, il gagne que de 2 coups, et quand il pote bien, il gagne de 10 coups, ok, mais...
Il est 93e au stroke gain putting, mais bon, c'est toujours 100 places de gagner en 2 mois, en 3 mois.
Ouais, alors, la question qui tue, qui a plus de chances de faire le grand chelem, Scheffler ou Korda, selon vous?
Korda.
Korda.
Bah, il y en a un plus chez Korda.
Il y a quand même moins d'adversité. Ouais, question d'adversité.
Alors, est-ce que le Grand Chelem, c'est. Parce qu'il y a quand même 5 tournois majeurs hein, chez.
Ah
chez,
oui, alors
chez,
ça, effectivement, c'est plus compliqué. Effectivement, chez les femmes, il y en a 5.
Puis il y a Lilia Vu qui s'est re-blessée aussi. Céline Boutier, pour l'instant, ne joue pas aussi bien que l'an dernier, même si ça peut vite démarrer. Moi, je dirais, oui, Korda. Elle s'est déclarée quand même hyper épuisée, là. Elle s'est retirée du tournoi.
Mais bon, aucun des deux ne va le faire. Hein. Enfin, on en est quasiment...
Exactement.
Aucun des deux ne va le faire. Faut... On peut
mais parce que Mathieu Pavon et Céline Boutier vont gagner un major cette année. C'est pour ça. Ah,
Et la médaille d'or à Paris.
Oui, parce qu'il y a ça aussi, les Jeux Olympiques, et qu'elles considèrent un peu toutes comme le sixième majeur chez les... ça vous fait rire, Benjamin, chez les femmes, et évidemment important pour les hommes aussi. Chez Fleur, ce sera son premier JO, s'il participe.
Il a pas encore confirmé qu'il y serait. Moi, j'ai encore rien lu là-dessus. Je sais pas si Seb, tu as lu quelque chose en conf, mais qui va jouer les majeurs, les JO pour les États-Unis, je ne sais pas encore.
Non. Enfin,
je pense que vous avez tout dit. Autant Rory, on en parle beaucoup hein, des JO chez les dames, et elles en parlent tout le temps en conférence de presse de cette échéance de Paris. Autant j'ai pas vu beaucoup passer de lignes dans les comptes rendus de conf de presse de ces messieurs. J'ai l'impression que pour eux, c'est beaucoup moins important.
Ouais. Ouais.
Il y a Mathieu Pavon longitudinal hein, pour jouer les JO, si je dis pas de bêtises, c'était le cas par le passé en tout cas, donc il faut quand même répondre à pas mal d'exigences pour participer au jeu.
Allez messieurs, je vous propose un petit quiz.
Ah, qu'est-ce qu'on gagne?
Alors,
qu'est-ce que tu nous as ramené du Masters, JP?
Qu'est-ce que tu as ramené du Masters, Ben, à nous faire gagner?
Trop de trucs. Il y a mon banquier qui va encore m'appeler là, donc...
Un petit quiz, Sébastien, le quiz, ça va être très simple, ça va être soit Nelly Korda, soit Scottie Scheffler, ou alors les deux. Alors, première question.
C'est génial, JP.
Facile, c'est une question pour Arnaud. J'ai gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Nelly Korda.
Korda. Ouais.
J'ai 10 victoires sur le circuit américain.
Nelly Korda.
Non, Scheffler.
Ah bah non, elle est à 13. Ouais. Bah 14 maintenant.
Scottie Scheffler, non, 13.
Ah oui, je compte les JO à chaque fois.
J'ai terminé.
Ah oui. Ouais, et le Lacoste et 10 Open de France, non?
Non.
Ça, c'est sur le LED. Je termine meilleur amateur de l'US Open 2017.
Scheffler.
Scheffler.
Scottie Scheffler, 27e.
Scottie Scheffler.
Il y a un peu de délai en fait. Benjamin est en direct du Bangladesh, là, il n'est pas vraiment à côté de vous, en fait.
J'ai participé une fois à la confrontation Europe-États-Unis en junior.
Nelly Korda.
Les deux.
Ah oui.
Solheim Cup junior 2015 pour Nelly Korda et Ryder Cup junior 2012.
Il fait la Walker Cup avec Morikawa aussi, Scheffler. Enfin, rien à voir, mais je voulais le caser.
Je suis passé pro en 2016.
Scheffler.
Korda.
Nelly Korda.
Korda.
Scheffler, c'était en 2018. J'ai gagné.
Si Scheffler était le meilleur à l'US Open en 2017 chez les amateurs, il pouvait pas.
Oui, mais j'écoutais pas.
Ouais. J'ai gagné.
Et bim, la baffe de Seb.
J'ai gagné deux tournois majeurs.
Korda.
Les deux.
Les deux, merde.
Ouais, mais moi, je compte les JO à chaque fois. Ouais.
Ah, c'est pour ça.
Donc, Scheffler, évidemment, les Masters 2022-2024, et Korda, le KPMG 2021, et le Chevron cette année. J'ai gagné l'Open de France.
Nelly Korda.
Oui, ça c'est bon. donc,
et évidemment... on compte les points au fait là, ou on fait juste des petits jingles
en 2019.
Mais vaut mieux pas qu'on les compte pour toi.
Alors qui était deuxième?
À quoi?
C'est une Boutier.
À combien? À l'Open de France.
Bon, c'est une Boutier.
Combien de coups d'avance?
Bah c'était pas Scheffler en tout cas. 4.
8 coups d'avance.
Ah la vache.
Et dernière question, j'ai passé le cut de l'US Open 2013 juste avant mes 15 ans.
Korda.
Ouais. Korda.
Korda.
Bravo, bravo.
Très belle performance d'Arnaud Tius.
Ouais. Et
j'ai marqué des points.
Et donc du coup, elle a gagné les Jeux Olympiques, Nelly Korda.
J'ai l'impression de repasser le code, quoi. Encore plus nul.
Merci beaucoup, Sébastien Audou. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Nelly Korda ou Scottie Scheffler? Lequel te bluffe le plus, tiens?
Franchement, les deux.
Les deux.
Les deux, mais c'est vrai que ce que fait Scheffler, on va dire que chez les dames, on parlait de Sørensta, mais on a eu beaucoup de périodes de domination quand même d'une golfeuse qui écrasait le golf mondial, parce qu'après Sørensta, on a eu Ochoa qui a dominé un peu de la même façon.
Chez les hommes, Cathy Whitworth,
Tiger,
aussi, sur le LPGA.
Exactement.
88 victoires,
chez les hommes, c'est quand même. Chez les hommes, c'est quand même beaucoup plus rare. On a eu la période Tiger, et sinon, on a des périodes de chauffe où des joueurs comme ça, on parlait de Spieth, on parlait de Koepka qui, par deux fois, gagne de majeur, Kaimer,
Bernard Langer,
qui gagne le Players et l'US Open en l'espace de quelques semaines, mais c'était sur des périodes quand même assez courtes. Et puis, mine de rien, il ne gagnait pas tout. Alors que là, chez Fleur, il gagne vraiment tout. Et c'est vraiment vraiment impressionnant. Alors oui, on peut me dire effectivement il y en a une partie qui sont partis sur le live et du coup ça rend les choses plus faciles. Oui, ok, enfin il n'y a pas quand même les champs de joueurs qu'il affronte, il n'y a pas que des manchots, donc c'est quand même très très impressionnant.
Juste pour histoire 2, ça sera
parler
sûrement
du
le
tableau derrière ça,
l'objet
qui est l'artiste du le tableau derrière toi.
L'objet d'un futur podcast, Sébastien, Rory McIlroy qui a annoncé qu'il voudrait peut-être retourner au board des joueurs.
Pas non, jouer les boards.
C'est ouais. Pas qu'il voulait peut-être, c'est qu'il est retourné, non, je crois. C'est ça,
bah, oui, enfin, c'est ce que révèle le Guardian. Je trouve ça personnellement. Alors là, on est quand même dans la Twilight Zone. Alors sinon, bon, ça, c'est du Keith Haring pour Benjamin. Et là, c'est du Basquiat, hein, les skateboards. Voilà.
Bah, qui ont gagné deux fois sur le LPG.
D'accord.
Exactement. Honnêtement, je pense que Rory, là, il devrait quand même un peu commencer à faire attention à ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il dit tout et son contraire, il fait tout et son contraire. On apprend qu'il claque la porte, qu'il quitte même le groupe WhatsApp des joueurs. Maintenant, il revient au board.
Alors que
on
ses scores
qu'il y a forcément
sont pas
eu
au
des tractations.
Top.
Oui, en plus, il joue pas très bien au golf.
Tout pour aller sur
lui. Déjà cramé. Il s'est complètement cramé à être le porte-parole du PGA Tour depuis 2 ans. Là, à nouveau, il va faire l'actualité à cause de ça. Moi, en plus, je trouve que ce board des joueurs, ça marche pas du tout parce que globalement, ils sont pas là pour défendre l'intérêt général des joueurs. Hein. Chacun voit son propre intérêt. C'est d'ailleurs le problème. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un véritable syndicat des joueurs qui enverrait des membres dans ce conseil d'administration du PGA Tour pour défendre vraiment l'ensemble des joueurs et pas, pour certains, le top 20 mondial et pour d'autres, un groupe un peu plus large. Mais on voit qu'en plus, personne n'est d'accord. Cantlay ne pense pas la même chose que Simpson. Simpson n'est pas sur la même ligne que McIlroy sur le deal avec le livre. Donc, ça ne va pas faciliter, à mon sens, les discussions et la résolution de tous les problèmes qu'on évoquait en ouverture de ce débat.
Et vivement que vous fassiez un footing pour nous faire un petit tableau, Seb.
Exactement, j'y travaille là.
Eh bien, merci en tout cas, Sébastien. Évidemment, on te retrouvera dans un prochain podcast. Avec plaisir, à bientôt.
Salut,
merci,
Seb, merci.
Ciao.
Voilà, messieurs, et avant la fin de cette émission, je vous propose tout de suite de joindre un Français qui a terminé deuxième sur le Challenge Tour la semaine dernière. Et je veux parler d'Alexander Lévy qui nous donne des nouvelles.
Bon, Alexander, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Déjà, bravo pour cette belle deuxième place la semaine dernière. Je suppose que ça a dû te faire du bien de retrouver ce goût un peu d'être en position de gagner.
Ouais, c'était cool. Bonne semaine. Bon, après, ça fait un petit moment où je sens que mon niveau de jeu monte au fur et à mesure. J'ai fait 2 très belles semaines en Inde. Et là, je suis ravi d'avoir pu faire cette deuxième place. Un peu triste de ne pas avoir réussi à clôturer le tournoi parce que je l'avais en main. Mais bon, c'est des choses qui font partie d'une carrière, partie du golf. Et forcément, il y a eu des faits de jeu qui ont fait que ça a tourné en la faveur du joueur anglais et pas dans la mienne.
Où est-ce que, quand est-ce que tu as senti que tu revenais vraiment à ton niveau qui était le tien il y a quelques années? Il y a eu un long chemin après ta blessure, le Tour européen et tout ce qui s'est passé ensuite?
Ouais, forcément. Après, je pense que j'ai été trop dur avec moi-même après ma blessure. Et on m'avait dit, tu verras, il faut que tu prennes ton temps. Après 9 mois sans avoir joué, c'est minimum le double de temps pour revenir à ton meilleur niveau. Et je disais à chaque fois, ouais, mais j'y pensais pas vraiment à ce qu'on me disait. Et au final, ben, je crois que c'est la simple vérité. T'as beau bien t'entraîner, t'as beau tout donner, t'as beau faire plein de choses, mais le jeu, ça reste le jeu. Et quand tu en perds un peu, ben, ça prend du temps à revenir. Et je pense que ça a été ça. En plus, j'ai dû un peu changer la manière de swinguer pour moins solliciter mon dos. Donc, il y a eu ça en plus. Donc, je pense que c'est tous ces petits détails qui ont fait que ça a pris beaucoup plus de temps. Et là, aujourd'hui, franchement, je me sens très solide sur mon jeu et je sens que je suis en train de remonter la pente.
Justement, physiquement, tu en es où, Alex ? Plus aucun problème de santé ? C'est derrière toi, tout ça ?
Ah, je touche du bois. Pour l'instant, nickel. Mon staff a fait un super travail. Je leur ai donné carte blanche quand je me suis blessé. Et pour l'instant, je suis ravi de ça. J'ai vraiment, c'est de l'histoire ancienne pour moi. Et après, je fais toujours très attention. Je fais toujours mes routines quotidiennes, tous les jours. Pour ça, mais c'est quelque chose où je fais vraiment très attention à ça.
Qu'est-ce que tu as, enfin, on va dire dans des mots simples, qu'est-ce que tu as changé dans ton swing pour avoir un swing qui sollicite moins le dos? Est-ce que tu peux préciser un peu pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent?
Ouais, c'est
simplement.
Simple, moins de side bend, donc moins de verticalité au niveau de mon corps et plus rotatif. Voilà, c'est. Tout simplement, j'avais beaucoup de side bend, comme on appelle ça dans le terme golfique. Et maintenant, beaucoup plus de rotation, beaucoup moins de latéralité dans mon swing et plus de rotation. Voilà.
Ça met du temps à digérer, on va dire, un nouveau swing. Ça prend du temps de s'habituer à ce nouveau geste.
Bah déjà, de un, tu n'es pas sûr que ça marche parce que tu as fait un mouvement pendant toute ta carrière qui était différent. Donc, il y a ça. De deux, il faut avoir le temps de l'imprégner, de le comprendre. Après, moi, j'ai eu de la chance. C'est quelque chose que j'avais déjà eu envie de travailler dans le passé parce que je trouvais que j'avais trop de latéralité et que ça pouvait arriver. Et donc, au final, j'étais content de ça. Mais ouais, c'est pas évident à changer.
Justement, Alex, c'était ça ma question. Est-ce que tu es content avec ce nouveau geste ? Est-ce que ça a été une bonne chose au final ? Est-ce que tu préfères ce nouveau swing ou tu préférais l'ancien ou tu te sentais plus à l'aise avec l'ancien ?
Honnêtement, au niveau. Forcément, c'était un peu ma marque de fabrique, l'ancien swing. Mais le nouveau, je pense que je peux être beaucoup plus régulier. Et je pense que c'est ça que chez moi, je trouve qu'il y a eu une belle évolution dernièrement, c'est que je suis beaucoup plus régulier et j'arrive à enchaîner semaine après semaine, à avoir des bons résultats et avoir une qualité de frappe de balle.
Au niveau de la distance, c'est toujours pareil ou ce nouveau swing
Franchement, là, je mets des bonnes bombes, donc je suis très content. J'avais perdu pas mal de distance à ma reprise, pour être honnête. Mais là, honnêtement, je commence à vraiment mettre des bons gros sachets. Et ça me fait plaisir.
C'est quoi, en termes de distance, un gros sachet pour Alexandre Lévy ?
Bah, je sais pas. Je commence à retrouver du 275 mètres de carry sur des drives. Alors que fin d'année dernière, milieu d'année dernière, j'étais à 265. Et je pense que si j'en appuie bien une, je peux aller aux alentours des 2,80. Donc, ça fait en moyenne 10 mètres de carry de plus. Donc, c'est déjà énorme.
Alex, dernière question sur le sujet. Mais est-ce que l'ancien geste revient ou tu as des pensées dessus de temps en temps ou pas du tout, notamment sous pression ?
Ah, forcément, hein, c'est ma marque de fabrique. Donc, forcément, il y aura toujours cette... Surtout vu comme c'est proche, il y aura toujours cette comment dire, cette petite marque de fabrique chez moi où la latéralité fera toujours partie de mon swing. Mais j'essaye de le diminuer au maximum et c'est ce que je suis en train de faire. De toute façon, le golf, c'est des petits détails.
Est-ce que tu peux nous parler justement de ton travail avec Raphaël Jacquelin? C'est, qu'est-ce qui t'apporte, Raph?
Raph, Raph, j'exprime beaucoup mes sentiments, mes sensations avec lui, que ce soit à l'entraînement, on s'appelle beaucoup. C'est un peu mon... c'est un peu le mentor, un peu le psychologue, un peu le coach mental, un peu l'entraîneur de performance. Et j'ai une super relation avec lui là-dessus. Et on échange beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Beaucoup moins sur la technique, mais plus axé sur le jeu, émotion, état d'esprit. C'est vraiment ma relation que j'ai avec Raph.
C'est ton seul coach ou t'en as un autre techniquement? Non,
j'en ai un autre techniquement. Je travaille avec Jérôme Tenis depuis mi-juin l'année dernière. Donc, il travaille aussi un peu en relais. Mais avec Raph, je fais très peu de technique, quasiment pas. Beaucoup de performance et comme j'ai dit, l'aspect mental, état d'esprit avec lui.
Là, tu as fini deuxième la semaine dernière. Forcément, l'objectif, ça va être de cette année, la victoire et remonter sur le tour le plus vite possible.
Ouais, exactement. Je suis dans une très bonne posture. Donc, voilà, l'esprit tranquille. La semaine prochaine, je vais jouer en Chine sur le tour parce que c'est le parcours où j'ai gagné ma première victoire. Donc, je voulais absolument... y retourner, me mettre des ondes positives là-bas, profiter. Ça ne me faisait pas sauter un tournoi du Challenge Tour sur le calendrier. Et après Séville, je joue Séville la semaine d'après la Chine. Et après ça, je ferai un emploi du temps et je vais m'y fixer à 100% dessus. Mais il y a de grandes chances que je joue toute l'année sur le Challenge Tour.
Ça, il a fallu le digérer aussi, de se dire bah voilà, je suis retombé sur le Challenge Tour après X années sur le Tour européen. Ça a été dur à accepter ou pas du tout?
Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'avec ma catégorie, je pensais rentrer beaucoup plus dans les tournois, surtout sur le Tour. Donc, j'ai été malin d'identifier ça et d'aller jouer le plus tôt possible dès l'Afrique du Sud sur le Challenge Tour. Ça m'a permis de mettre des points au début, prendre un peu de confiance aussi, parce que je jouais pas trop mal. Et oui, ça, c'est quelque chose que j'ai dû accepter. Après, j'ai pas d'ego ou quoi que ce soit pour me dire ma place c'est pas sur le Challenge Tour. Je l'ai totalement accepté. Justement, je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose de repartir d'en bas pour monter encore plus haut et se reconstruire tranquillement. Sans le regard des autres, en faisant des petites choses, découvrir des nouvelles personnes aussi que je ne connaissais pas trop, et voilà, pour se reconstruire au fur et à mesure et remonter la pente.
Je crois que la dernière fois que tu étais sur le Challenge Tour, c'était il y a peut-être plus de 10 ans. Est-ce que tu as vu que le niveau a évolué entre 2012, quand tu montes à la finale, et maintenant?
Ouais, bien sûr. Ça a évolué énormément. Maintenant, sur le tour, les mecs du Challenge Tour, ils arrivent, ils gagnent, ils font des podiums. Avant, quand tu venais du Challenge Tour, il y avait 3-4 mecs qui gardaient leurs cartes, sinon ils redescendaient sur le Challenge. Donc, il y a de plus en plus de jeunes et ils sont de mieux en mieux préparés. Et après, je trouve aussi qu'honnêtement, sur le Challenge Tour, les parcours sont de mieux en mieux. Là, depuis le début de la saison, on a joué vraiment des bons parcours, quoi. J'entendais beaucoup de gens se plaindre de, ils se plaignaient des parcours, mais là je les trouve franchement encore cette semaine, c'est un super bon parcours, quoi.
Alex, t'es pas trop mal classé aussi sur le tour européen. Est-ce que tu, dans un coin de ta tête, t'as l'idée de garder ta carte directement sur le tour européen ou pas du tout, c'est tout pour le challenge?
Ouais. Comme je dis, mon objectif, c'est de jouer sur le Tour européen en 2025. Donc, que ça soit par le Challenge Tour ou par le Tour, j'ai aucun problème. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'en 2025, j'ai un droit de jeu full sur le Tour européen. C'est mon objectif, c'est ce que je me suis fixé. Donc, peu importe que ça soit entre le challenge ou le Tour, je veux retourner sur le Tour. Donc, voilà, j'ai pas de... Forcément, j'ai une préférence, ça serait de jouer le Tour. Mais si je ne rentre pas dans les tournois, je ne vais pas non plus me griller et pas jouer du Challenge Tour.
Dernière question, on te verra à l'Open de France, Alex, tu penses? Pas sûr?
Si je joue via le Challenge Tour, c'est sûr que je ne serai pas là-bas. C'est pendant un gros tournoi du Challenge Tour. Malheureusement... je pense que si je joue le Challenge Tour, c'est sûr que je n'y serai pas. Après, il y a beaucoup de golf, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici octobre et on ne sait pas de quoi est fait demain.
Ben merci beaucoup Alexander et bon tournoi cette semaine à Abu Dhabi.
Merci les gars.
La semaine prochaine pour la victoire.
Merci. Ouais. Allez, avec plaisir. Ciao.
Voilà, Alexander Lévy qui va jouer évidemment cette semaine à Abu Dhabi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir suivi cette émission. On rappelle qu'il y a aussi un tournoi.
On y a participé aussi.
Oui, exactement. Qu'il y a un tournoi du LPGA à suivre sur les antennes de Journal du Golf TV cette semaine et sur FFL TV évidemment ce week-end du côté de Los Angeles, Benjamin. Une ville que vous adorez.
Oui, la Californie.
Exactement. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!